Et c'est la fin de ce bulletin d'information, la suite de programmes sur Radio Okapi avec paroles aux auditeurs que va vous présenter J.R. Lungembo.
Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de choisir Radio Okapi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci de votre fidélité à Parole aux auditeurs, votre magazine d'échanges citoyens. Le 17 mai de chaque année, la RDC célèbre l'avènement de la Troisième République avec la chute du régime Mobutu. C'est le matin du 17 mai 1997 que l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, AFDEL en sigle, arrive à Kinshasa, la capitale de la RDC. Dans leur déclaration, les leaders de l'AFDEL affirment être venus libérer le peuple congolais de la longue dictature des années Mobutu. 20 ans après le départ du maréchal du Zaïre, quel est le bilan sur le plan politique, social, économique? À l'adresse pa@radiookapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Héritier Sidi Akala est à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierrot Elameji et Nico Kalamba est au standard de ce programme supervisé par Martin Sebou Jangwe. Cette émission vous est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
À comparer les époques, qu'est-ce qui a caractérisé la politique de Maréchal Mobutu et aussi qu'est-ce qui a été à la base donc de l'idéologie politique de Kabila 1 et aujourd'hui où en est-on? Nous avons en ligne Jean-Claude qui nous a rejoint à ce niveau du débat. Jean-Claude, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour très cher JR, bonjour aussi à l'ensemble des autorités de Radio Okapi. Hein.
Quel bilan faites-vous sur les plans politiques, social et économiques 20 ans après le départ de Maréchal Mobutu?
Malheureusement, force est de constater que le bilan est mitigé, totalement mitigé. L'avènement de l'AFDL a suscité beaucoup d'espoir dans les milliers de Congolais, mais malheureusement, nous venons de constater, vous et moi, et ensemble, qu'il y a un aspect très négatif. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social. Vous allez juste me poser la question, et je vais vous dire qu'en 1990, 91, 92, nous avions constaté qu'il y avait des débauchages ça et là, où on achetait les opposants comme ça s'est fait aujourd'hui.
Oui, allô Jean-Claude.
Oui, allô.
Jean-Claude, on a des petits soucis avec votre ligne. Je crois que la liaison pose énormément de problèmes. Pouvez-vous vous éloigner un tout petit peu de là où vous êtes? Comme ça, ça pourrait nous permettre quand même d'avoir une communication très fluide.
Allô, est-ce que ça va?
Voilà, vous disiez que à l'époque, en 1990, il y a eu ce phénomène de débauchage qu'on a pu connaître. Et aujourd'hui, dans la vie politique, c'est pareil.
Tout à fait. Vous voyez que ça refait surface. Nous parlons aujourd'hui de la monnaie. Là, vous voyez comment les francs congolais dégringolent. Il y a aussi le chômage absolu par rapport même à l'époque du maréchal Mobutu. C'est tout simplement vous dire que l'avènement de l'AFDL a suscité beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, nous revenons presque sur la dictature.
Oui, Jean-Claude. Jean-Claude.
Oui,
quand vous évoquez la dégringolade de la monnaie nationale, mais je me réfère aujourd'hui à la parole de Vundawe, qui a été l'un des collaborateurs, professeur Vundawe, qui a été l'un des collaborateurs du fait maréchal Mobutu, qui disait que tout ce qu'on dit sur le mobutisme ou sur Mobutu n'est pas juste. Je reprends ses propres mots dans une interview. Il a dit, je constate avec regret que les gens ont l'habitude de juger le bilan du maréchal sur ces 5 dernières années, caractérisées par une forte crise consécutive à la fin de la guerre froide où la monnaie n'avait plus sa valeur.
Oui, là, je suis tout à fait. Permettez-moi de faire ce paradoxe, mais je suis d'accord avec le procès bourgeois et le constitutionnalisme. Mobutu, depuis 65, jusqu'à 1990, Mobutu était meilleur. Mais imaginez, vous faites juste une petite comparaison entre ce régime qui a déjà fait plus ou moins 16, ou prenons juste 97, après la mort du Laurent Désiré Kabila. Depuis 2001 aujourd'hui, faites d'abord les études comparatives d'hier. Mais vous donnez raison à qui? Moi, je pense que depuis 2001 jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans une situation catastrophique jamais connue dans l'histoire de notre pays.
Alors, à propos, parce que vous parlez de la vie politique, est-ce que on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, dire que, parce que nous situons vraiment dans les époques Mobutu, Kabila 1, Kabila 2, Mobutu a dû, comme vous l'avez si bien expliqué, et je crois que s'il faut revenir d'ailleurs sur le propos de professeur Vundo, oui, qui disait que les 5 dernières années, caractérisées par une forte crise consécutive à la fin de la guerre froide, le bilan pour lui, pour le professeur global de 32 années de pouvoir montre qu'il a réalisé beaucoup de choses, notamment l'unité et la concorde nationale, la conscience et la fierté nationale, la paix, sans oublier la démocratie. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes déjà engagés, disons, dans une voie de non-retour de la démocratie. Donc nous sommes déjà, le pays est déjà sur une voie de la démocratie.
Juste vous faire une petite idée. Il y a un principe qui dit: construire une maison sans pouvoir l'achever, c'est détruire. Nous avions commencé un bon élan en 2006, mais aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Est-ce que les élections, on suit les cours normaux des élections? 2011, aujourd'hui, où en est-on? Moi, j'ai quiconque a décidé qui me dit que non, aujourd'hui, en 2017, il y aura, en décembre 2017, les élections. Parce que tous les étincelles, il y a, les ténors du pouvoir aujourd'hui, nous sommes habitués, nous voyons tous ceux qui sont, ils mettent, donc, ils plantent tous les décors pour ne pas aller aux élections. Moi, je vous dis que non, les élections aujourd'hui, c'est le cadet de leurs soucis. Ils ne sont pas pour les élections. En 2011, vous voyez, aujourd'hui, ils sont en train de dire, ils épinglent et ils montent en épingle. Quand vous entendez le président de la CENI vous dire que non, élections sans cassage, je ne sais pas moi. Et il commence même, pourquoi lui ne démissionne pas? Quand il vous dit que non, l'accord du 18, ils ne m'ont pas entendu. L'accord du 31 décembre, ils ne m'ont pas entendu. Mais pourquoi vous allez continuer à travailler alors que vous n'êtes pas entendu?
Voilà. Alors si je comprends bien Jean-Claude, pour vous, sur le plan politique, rien n'a changé. Et vous avez maintenu votre position en disant que l'avènement de l'AFDEL avait quand même suscité beaucoup d'espoir sur les Congolais tous ensemble. Alors sur tous les plans, vous estimez que le bilan est mitigé en comparant bien entendu les époques en 90 où il y avait des débauchages. Aujourd'hui, sur le plan politique, nous vivons la même situation. Sur le plan économique, il y avait cette destruction du tissu économique. C'est ce que nous observons aujourd'hui avec un taux de chômage très 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 élevé. Et vous avez aussi martelé que la vie sociale n'a pas du tout changé. C'est comme si, comme l'a dit un internaute, qu'on a simplement déshabillé Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Merci beaucoup Jean-Claude d'avoir appelé Dekindu. 20 ans après, Amos, vous êtes à Bukavu. 20 ans après le départ de Mobutu, qu'est-ce qui a changé sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social? Amos, bienvenue.
Merci, j'ai été à saluer d'abord tous les auditeurs de la radio de la paix. En fait, comme mon professeur venait de le dire, l'avenir de Mouzé Laurent Désiré, il a tiré beaucoup d'espoir auprès des Congolais qui a été victime des 32 ans de la dictature de M. Mobutu. Malheureusement, Mouzé est parvenu à opérationnaliser son projet pour la faveur des Congolais. Et il a été sitôt tué. Et à mon avis, moi je crois que 20 ans après
la chute du régime,
le bilan est valablement négatif. Très négatif. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons tous ces gens-là qui ont contribué.
Voilà, Amos. Oui, Amos. Pour nous faire comprendre, parce que oui, vous avez dit que le bilan, il est nettement négatif, développez votre thèse avec sur 3 points, donc la politique, l'économie et le social. Sur le plan politique,
Si je te disais que 20 ans après, nous avons constaté avec beaucoup de regrets que tous ceux qui ont constaté la destruction du pays avec Mobutu, ce sont ceux qui sont en train de nous gérer aujourd'hui. C'est-à-dire, avant que je devais préciser que nous le mobutisme, ça mobutisme aujourd'hui. Par rapport à votre préoccupation sur le plan politique, moi je pense que le bilan est négatif. Pourquoi? Même si nous sommes parvenus à organiser les élections deux fois, mais il faut voir la situation que nous voyons aujourd'hui. Parce que le processus démocratique que nous venions de commencer vient d'échouer totalement. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes gérés par des institutions illégitimes et illégales. Ce qui crée une cacophonie totale au pays. Par rapport au socio-économique, sur la situation sociale, vous allez comprendre que l'éducation, il faut voir la situation éducative dans notre pays aujourd'hui, c'est les parents qui continuent à payer la prime pour les enfants. Il y a l'insécurité partout, sur toutes les familles du pays, que ce soit au Kasaï, que ce soit à Rama, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit au Kivu. Il y a l'insécurité partout au pays. Il ne se passe plus un jour sans qu'on parle des gens qui ont été tués, des gens qui ont été pillés. Et c'est important de se lier. Je vois par rapport à la situation économique. Aujourd'hui, un dollar va au 1500. Il y a là où on est en train d'échanger déjà un dollar à 1500 francs. Et il faut voir les salaires que nos parents touchent. Comment comprendre que quelqu'un qui vous touchait 70 000 francs, le taux du dollar était encore à 90, mais aujourd'hui le taux du dollar coûte déjà 1500 francs et rien n'a été changé par rapport à ça. Vous allez comprendre que, par rapport à ce que vous venez de dire, la situation va de mal en pire dans tous les domaines de la vie aujourd'hui, au moment où nous avons déjà, si c'est lui qui nous gouverne, au moment où nous avons un chef de l'État qui a prêté serment de savoir comment améliorer les conditions de vie de la population congolaise, malheureusement, il a prêté même serment déjà, il va sécuriser le peuple congolais, c'est bien. Mais il faut voir ce que nous avons aujourd'hui. Moi, je pense.
Voilà, merci beaucoup Amos d'avoir brossé le bilan. Le bilan de ces 20 ans, 20 ans après le départ de Mobutu, le bilan sur les plans politiques, social et économiques, pour vous, il est très négatif, contrairement à celui qui vous a précédé, Jean-Claude, qui parlait plutôt d'un bilan mitigé en comparant les époques en 90 où il y avait des débauchages sur le plan politique. Aujourd'hui, nous vivons pratiquement la même situation. Sur le plan social, vous l'avez dit également, la prise en charge des parents par les enseignants, donc la prise en charge des parents par les enseignants, ça continue et c'est depuis 1992 lorsque le feu cardinal Etiaou avait trouvé une solution pour en fait aider l'éducation qui était menacée par ce que nous avons appelé l'année blanche par l'UNESCO. Il a sauvé en demandant aux enseignants de faire bonne foi, de pouvoir enseigner et les parents devaient supplier. Merci beaucoup Amos d'avoir appelé de Bukavu. On prend l'honorable Paulin Odiane, député provincial à l'Ituri. Honorable Paulin Odiane, bonjour et bienvenue.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
20 ans après le départ de Mobutu, quel bilan faites-vous sur les plans politiques, social et économiques?
Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je crois que nos compatriotes qui ont pris la parole ont essayé de brosser les tableaux donc de la situation arrière de notre pays et nous sommes d'accord avec eux. Et je crois que sur le plan politique, il n'est secret pour personne. L'entrée de l'AFDL avait suscité un espoir énorme dans les chefs de la population congolaise. Mais parce que le but même de l'AFDL était d'abord de démanteler la dictature de Mobutu, restaurer la démocratie et un état de droit, et également la bonne gouvernance. Et mettre fin à une armée tribale qui était dans notre pays. Mais la question que nous pouvons nous poser est de savoir est-ce que ces objectifs sont atteints aujourd'hui ou non? Est-ce qu'il y a vraiment donc la démocratie dans notre pays? Est-ce qu'il y a un état de droit? Il y a la bonne gouvernance? Ou ça existe comme le passé? Donc nous pouvons dire à cette période de que traverse notre pays que la démocratie n'est pas encore restaurée dans notre pays parce que le fonctionnement même des institutions, la gestion même de la chose publique ne suit pas les normes démocratiques. Si vous arrivez même dans les différentes provinces de la République au moment où nous parlons, il y a des agitations partout parce que ceux qui dirigent les provinces ne sont pas des hommes outillés, ils ne sont pas des démocrates, ils ne démontrent pas comment ils gèrent la chose publique. Et même leurs
désignation pose problème parce qu'il n'y a pas eu transparence dans la désignation même des candidats gouverneurs au niveau même des états-majors des partis politiques. Donc on a préféré choisir des hommes qui peuvent facilement effectuer des opérations et tout. C'est ce qui pose problème aujourd'hui dans nos différentes entités
provinciales.
Donc sur le plan même de la bonne gouvernance, je crois que vous avez eu à suivre plusieurs moyens de contrôle initiés au niveau même du de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. On a décrié des histoires, mais personne n'a jamais été arrêté dans ces pays pour avoir dilapidé l'argent de l'État inutilement. Donc tous ces gens sont restés comme tels. On a parlé des entreprises publiques, on a parlé de finances, même des différents ministères, des dépassements des lignes budgétaires. Donc personne n'a été sanctionné. Sur le plan des élections, vous avez constaté avec nous que nous sommes maintenant dans une période que nous ne savons plus qualifier si nous sommes dans quelle période. Donc parce que les élections ne sont pas organisées. Les élections ne sont pas organisées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu une volonté politique d'organiser les élections. On veut que nous puissions demeurer dans cet état pour aller, pour continuer jusqu'où, on ne sait même pas.
Et voilà, merci. Oui. Là, merci beaucoup,
avec
Paul.
La situation qui se passe de l'autre côté, au Castra, nous espérons de continuer comme ça et dire que non, voilà, au niveau des Qatar, ils n'ont pas fait l'enrôlement, par conséquent, ils ne peuvent pas organiser les élections, il faut attendre. Alors que la souffrance de notre population perdure. Je tiens à vous dire que depuis l'entrée de l'Artel, quitter Niagna jusqu'à Itiro, ce n'est que 200 quelques kilomètres. Personne n'a pensé à réhabiliter cette route. Alors que les Haut-Tuélés, avec Ivan Gold, nous sommes, donc si on prend les quatre nouvelles provinces de la grande province orientale, les Haut-Tuélés contribuent à la hauteur de 69% dans le budget national. Mmh. Mais la population qui est ici n'a plus confiance à personne. Alors l'espoir suscité par l'entrée de l'Afdel n'existe plus. L'espoir suscité au début, même pour ceux qui sont au pouvoir actuellement, ça n'existe plus. Mais qu'allons-nous faire? Sur le plan social, c'est la même chose comme a expliqué le prédécesseur. Les enseignants ne sont pas payés, même s'ils sont payés, mais quel montant? Ça sert à quoi? C'est pour faire quoi? On ne sait pas, avec la dévaluation qui gagnerait ce pays, et nous avons ici, mais nous allons pouvoir régler ce qui vient d'être nommé. Mais ce premier ministre ne bénéficie pas de la confiance de la population.
Voilà, merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Paulin Audiane. 081-890-49-69 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Et nous vous rappelons que le débat se tient également sur cette page où vous êtes prêts à interagir. Voilà, je crois que nous allons poursuivre avec notre invité. Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Sonji Jean-Baptiste, qui est un des compagnons de Mouzé. Bonjour docteur.
Bonjour.
Voilà, après avoir suivi les uns les autres qui ont brossé le bilan par rapport à la lecture que les uns et les autres font sur l'avènement de l'AFDEL en 1997, où les leaders que vous représentez à cette époque-là avaient même annoncé que vous êtes venu libérer le peuple congolais de la dictature du régime Mobutu. 20 ans après, est-ce que cela a été atteint comme objectif?
Non, je ne peux pas dire que l'objectif a été atteint. D'abord, il faut se souvenir que nous avions lutté, d'abord ici, dans le cadre de la conférence nationale, c'est lorsque on a senti que Mobutu faisait des obstructions quant au processus de la démocratisation, que l'AFDEL est venu ici, et moi j'étais l'antenne de l'AFDEL ici. Donc le vendredi 16, je me souviens très bien, à 7 heures du matin, j'étais en face de la Sonas en allant vers l'hôpital général. Et c'est là que j'ai vu le convoi de M. Mobutu partir. Et lorsque j'arrive à l'hôpital général, un colonel de l'armée me dit « Mobutu vient de fuir ». Alors, comme j'étais le représentant de l'artillerie, on a mené une pour savoir si c'était vrai. Et effectivement, à 15h, nous étions à deux, il y avait quelqu'un qui avait une balise satellitaire. On a dit « Écoute, Mobutu vient de fuir ». L'AFDEL, il ne faut plus traîner, et c'est moi qui leur ai donné les itinéraires, qu'est-ce qu'il fallait protéger, tout ça. Et c'est vrai que la venue de Mzé Laurent Désiré Kabila, plus que de l'AFDEL, a soulevé beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, si on doit comparer ce qu'on attendait à partir de la lutte que nous avons menée pour le départ de Mobutu, ce que nous vivons aujourd'hui, je peux dire sans crainte que le pays a reculé. Le pays a reculé. Je rappelle qu'en 2011, dans le classement PNUD, des pays sur le plan du développement humain, la République démocratique du Congo était 187e sur 187 pays. Or, si vous comparez à l'époque de Mobutu, dans les mêmes classifications, nous n'étions pas à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, à tout point de vue, la démocratie n'est pas là. Et d'ailleurs, il y a une certaine similitude entre les deux. Autant M. Mobutu n'était pas mandaté du peuple congolais. Il avait été mis là pour, dans le cadre de la guerre froide, par d'autres personnes. Aujourd'hui, je peux affirmer sans être contredit que M. Kabila n'a jamais été élu par le peuple congolais. En 2006, c'est pas lui qui avait été élu. En 2011, il n'avait pas été élu non plus. Donc, il est plus au service des intérêts autres que des intérêts du peuple congolais.
Je crois que nous ne sommes pas dans les secrets de la CENI, mais au moins, en 2006, on sait que les élections ont été organisées. Il y avait quelqu'un qui avait gagné. Il a été proclamé par la CENI. Au même moment aussi, en 2011, c'était pareil. Mais la plus grande question aujourd'hui, vous qui est arrivé, qui avait accompagné Mzé, pensez-vous que déjà les départs étaient très bien, parce que bon, les uns les autres disent que les départs étaient déjà biaisés avec Mzé, le fait n'avoir pas accepté de travailler avec les partis politiques qu'il avait trouvés, qui ont d'ailleurs lutté pendant 7 ans, en tout cas de 90 en 97, pour le départ de Mobutu, pour affaiblir davantage Mobutu. Le fait de l'avoir pas accepté, déjà les bases étaient biaisées.
C'est pas tous, parce que nous étions de ceux-là. Moi, j'étais de ceux qui avaient lutté par
la conférence nationale.
Oui, il y avait Maître Momoreno, Maître Kinkela, Kapita, Bandoma. Nous étions quand même avec Mzé.
Oui, quand Mzé est arrivé, il a pris
un certain nombre de gens.
Les Kapita, tous
ceux-là. Il a pris un certain nombre de gens. Mais disons que les difficultés résident dans le fait que il faut pas oublier que Mzé n'était pas l'initiateur de cette lutte-là. Les initiateurs étaient les Rwandais, les Ougandais, qui eux-mêmes, en fait, étaient des sous-traitants d'autres puissances étrangères. Donc, on a pris Mzé un peu comme pour congoliser une action,
un mouvement,
alors que le fondement, c'était d'autres qui en étaient l'initiateur. Et Mzé avait donc d'abord à se libérer de ce carcan représenté par tous ces Rwandais-là, et il ne pouvait pas en même temps se défaire des Rwandais et en même temps s'ouvrir, parce que s'ouvrir impliquait nécessairement qu'ils chassent d'abord les Rwandais.
Mais il comptait sur quels moyens pour réellement contourner ce qu'il a appelé, qu'il avait qualifié à l'époque les conglomérats.
Mais il l'a fait, puisque le 26 juillet, il a décidé que les Rwandais s'en aillent.
Mais ça lui a coûté, là.
Ça serait le contraire de lui coûter la vie aussi. C'est-à-dire que les Congolais n'allaient pas accepter que le Congo soit sous la coupe des Rwandais. Mmh. Et vous avez vu d'ailleurs que si les Rwandais n'ont pas gagné la guerre qu'ils croyaient pouvoir gagner, précisément parce que le peuple a adhéré à la décision de Mzé, ce qui a fait que à Kinshasa, les Rwandais n'ont pas réussi. Ils ont essayé de prendre.
Donc pour vous, c'était pas une erreur politique.
C'était une circonstance.
Accepter de travailler avec les partis politiques.
C'était des circonstances qui, en ce moment-là, ne lui permettaient pas. Mais certainement, avec le temps, il allait changer. Mais en plus de ça, Mzé, pour justement essayer de se libérer du carcan rwando-ougandais. Il a fait venir beaucoup de Congolais, mais ces Congolais, en fait, étaient de tous bords. Beaucoup, parmi eux, il y avait beaucoup d'aventuriers. Donc, il a compté sur...
C'est ce qu'on a appelé les Congolais de la diaspora.
Conglomérat d'aventuriers. Donc, l'AFDEL, finalement, était devenu, effectivement, un conglomérat d'aventuriers des gens. Et alors, à partir de ce moment-là, il était miné de l'intérieur. D'ailleurs, lorsqu'il a été assassiné, on a utilisé ces contradictions.
Donc, vous partagez l'avis que le départ était déjà biaisé. dans les
le
bases
départ. Oui, le départ n'était pas biaisé, c'est-à-dire qu'il aurait pu parfaitement, s'il avait suivi certains conseils que nous lui avions donnés. Moi, je peux dire aujourd'hui que j'ai eu à lui dire que tel que nous avancions, nous allons droit au mur. Et il était d'accord, il était d'accord. Mais il m'a dit que il ne connaissait pas beaucoup de gens. Moi, je dis, c'est vrai, mais nous allons vous aider à connaître les gens que vous pourriez. Mais comme il était un peu méfiant, il ne connaissait pas les gens, bon, c'était difficile. D'ailleurs, Yerodia, quand nous avons fait venir le camarade
Yerodia... Mais Yerodia, au départ, sur le plan économique quand même, pour ne pas être trop les auditeurs qui attendent quand même, qui sont arrivés en ligne, sur le plan économique, on a vu quand même des signaux très forts. Avec la création de ce que nous avons appelé le service national.
Oui, mais c'est effectivement le service national.
Et puis l'instauration de francs congolais.
Mais absolument, quand vous voyez que quand il est resté au pouvoir, il n'a bénéficié de soutien de personne. Et on a vu que la monnaie d'abord s'est stabilisée. On s'est retrouvé avec une nouvelle monnaie qui était relativement forte. Et c'est justement ces idéaux-là de l'autonomie qui a gêné tous ceux qui veulent absolument avoir la mainmise sur le pays. Mais Mouzé, effectivement, ne s'est pas rendu compte que lorsqu'on s'engage dans un tel combat, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être organisé. Et Mouzé, à ce point de vue-là, il a failli du fait justement qu'il a choisi avec beaucoup de légèreté ses collaborateurs.
Et sur le plan social, nous avons vu un afflux des gens qui voulaient être recrutés au niveau de la police.
Absolument.
$100, c'était les salaires.
Absolument.
Et puis au niveau de l'économie, il a pu dédollariser l'économie.
Absolument.
En demandant à ce que tous les privés, en tout cas les entreprises privées, puissent payer en
franc congolais. Absolument.
Voilà. Alors, il y a tant d'autres quand même. On me fait dire qu'il y a quand même des élections, tout son parcours. Pendant la lutte, il y avait des élections à m'élever. Donc c'était une expression de la démocratie.
Absolument.
Qu'on voulait imprimer. Alors Claude est à Likassi, ingénieur Valérie à Kindou et Daniel à Kikwit. Claude, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Monsieur Gier. Voici ma contribution par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je commence par relever certains points que moi je note un peu compositifs par rapport au maréchal Mobutu. Je me souviens à l'époque, bon, des justes petits. Mais je retiens de Mobutu l'intégrité territoriale, je retiens aussi le fonctionnement des grandes entreprises étatiques telles que la Gécamines, la MIBA, la SNCC, je retiens aussi, n'est-ce pas, une certaine discipline entre nos corps armés. Et sur le plan même armé, parce que je viens d'en parler, notre armée était une armée forte. Mais la dictature, voilà, comme elle a duré longtemps, il nous fallait qu'il y ait un changement. Nous est venu le 17 mai et nous avions tous eu l'espoir du changement. Bien sûr, dès la première année, on a constaté un changement. C'est notamment sur le plan discipline, ordre, impunité, avec le lancement de l'OPP en charge. Alors le pays a quand même retrouvé un bel air. Mais la faiblesse, c'était sur le plan diplomatique et sécurité. Alors en ce moment-là, il y a eu faiblesse, il y a eu contestation à l'interne, Mouzé voulait se débarrasser vite des gens qui l'ont aidé, et trahison et autres, il reste au pouvoir, Mouzé est parti. Nous avons regretté ce départ parce qu'on avait vu quand même certains signaux du changement. Mais 20 ans après, comme vous l'avez souligné, moi, je note le point suivant comme étant le point positif. Nous avons organisé dans notre pays deux cycles électoraux de manière démocratique. Il y a les institutions légitimes qui ont été placées sur différents endroits. Nous notons aussi, n'est-ce pas, de nouvelles infrastructures, bien sûr, même si c'est privé, mais nous avons noté des routes, des infrastructures et l'émergence d'une certaine classe, n'est-ce pas, qui ont eu quand même aussi droit au chapitre. Mais sur le plan négatif, ce que moi je note, c'est qu'à ce stade que Mouzé est parti, parce qu'il avait une certaine vision, il est parti. Mais c'est la médiocrité maintenant, ce sont les enrichissements illicites, c'est le retour progressif de la dictature. Nous avons une armée très faible, ce sont des Rwandais, partout les Ougandais, les gens qui nous respectaient maintenant, ils peuvent entrer dans notre pays comme ils veulent. Notre armée, nos militaires ne sont plus respectés partout. Et vraiment, les grandes sociétés sont pratiquement en faillite. La Gécamine, c'est morcelé. L'Amiba, on n'en parle même pas. L'ONATRA, je ne sais pas comment ça fonctionne. Les SNCC, tous les jours, nous connaissons que les gens de SNCC, ce sont des réclameurs.
Oui, oui, mais Claude, mais à cette époque-là, vers les années 90, on a connu deux fois le pillage. Et c'est à ce moment-là que même les tissus économiques de notre pays commençaient déjà à poser problème. Et même des entreprises qui fermaient. Et on a connu des difficultés énormes pendant ces cinq dernières années de fin du régime, Mobutu.
Justement, c'est parce que à ce moment-là, Mobutu était attaqué de toutes parts. Il fallait d'abord sécuriser son pouvoir. Tout ce qui sortait comme argent, il fallait d'abord ravitailler l'armée, cacher un peu la richesse partout parce qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Mais quand il est parti, il a laissé, car ses sociétés vivaient. Parce que moi, quand je vous parle, j'ai travaillé dans l'une des sociétés que je viens de citer ici. Ces sociétés ont survécu quand vous êtes venu. Il les a trouvées, ces sociétés avaient toujours la possibilité de survivre. Mais comme il est venu avec une nouvelle classe, avec d'autres personnes affamées, ces gens-là ont voulu vraiment s'enrichir vite, se rassasier aussi, comme l'ont fait les gens de l'époque de Mobutu. Alors, parmi aussi les points négatifs, c'est le multipartisme. Mmh. Hein, moi, je crois que Mobutu avait raison de chercher que le pays puisse avoir ne plus que trois partis politiques, deux ou quatre, ça suffit. Maintenant, avec le multipartisme, c'est tout le monde qui a un parti politique de la mallette, il n'a même pas de base, donc il y a un multipartisme sauvage, sans idéaux, et c'est l'impunité. Donc, quelqu'un
voilà,
qui a un parti politique qui cherche seulement qu'on puisse
corrompre,
qu'on puisse lui donner l'argent pour voter telle chose. Alors, bref, l'exemple instruit mieux que la parole. Nous, Congolais, nous notons seulement que tout ce qu'on nous dit là, nous n'avons même plus besoin d'écouter. Nous avons vu les exemples. Dès que vous devenez aussi dirigeant dans ces pays, voler, construisez aussi beaucoup. C'est comme ça,
voilà.
Envoyez vos enfants en Europe. C'est
voilà, je crois. Est-ce que faut-il demeurer dans ces paradigmes? Voilà, c'est la question. Mais je crois qu'il y a toujours cet esprit, cet élan patriotique qu'il faut imprimer dans les générations à venir. Merci beaucoup, Claude, d'avoir appelé Delicacy. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu. Bonjour et bienvenue. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous à Kindu. Bonjour. Voilà, on va prendre plutôt Daniel qui est à Kikwit. Daniel, bonjour et bienvenue.
Bonjour. Je crois que vous me captez, vous êtes avec moi.
Oui, Daniel, vous êtes
Allô?
À Kikwit. Oui, vous êtes à Kikwit, vous avez
non,
suivi Jean-Claude.
Ingénieur Valérie d'abord. Ingénieur Valérie.
Voilà, ingénieur Valérie, oui.
Ça passe maintenant?
Oui, ça passe très bien,
oui,
allez-y.
Je vous écoute.
Oui, allez-y.
Ok, bonjour.
Allez-y, okay. Allez-y, ingénieur Valérie.
Merci beaucoup, JR. Je veux dire que personnellement, j'ai toujours regretté pourquoi ce régime de la FDL avait remplacé celui du maréchal Mobutu. À mon sens, c'est un régime qui n'aurait pas existé dans l'histoire. Pourquoi je le dis? Je viens de suivre à 10h15, heure de Kinshasa, Mme Kéline Kouté, que je salue en passant, qui avait reçu plusieurs personnes, entre autres Déogracias Bouguera. Pour la première fois, Déogracias Bouguera reconnaît que la victoire de la FDL était d'abord la victoire de l'opposition intérieure. Vous pouvez télécharger cette émission, c'est passé chez vous, il n'y a même pas une heure. Ou disons, il y a à peine une heure. Mais hier, qu'est-ce qu'on a constaté? Où est-ce que le maréchal nous avait laissé et où est-ce que l'AFDL nous a laissé? Lorsque l'AFDL est arrivé, nous étions bien déjà avancés avec le processus de l'établissement ou l'instauration d'un état de droit. Nous avions déjà des textes qu'on n'avait pas en 84, lorsque le maréchal Mobutu était élu, et en 90, lorsqu'il avait prononcé son discours. Mais l'AFDL nous a fait reculer parce que il nous a fait rater même l'occasion de reconstruire le vrai état des droits à partir de son avènement. Je prends un exemple pour l'histoire. Prenons l'exemple du Japon et de l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Ces pays ont été neutralisés. Mais parce qu'ils avaient des hommes, aujourd'hui le Japon, c'est une grande puissance en Extrême-Orient, et l'Allemagne, c'est la première économie européenne. Alors, maintenant, lorsque l'AFDL est arrivé, l'AFDL a supprimé tous ces processus que nous avions déjà commencé avec la Conférence nationale souveraine pour vous amener d'abord dans un petit décret là qui avait sur ces trois pages qu'on appelait le décret loi 003. Et quelques temps après, même ces décrets là n'existaient pas, on a navigué à vie. Mais dites-moi comment est-ce qu'on pouvait avancer. L'AFDL a isolé les pays diplomatiquement. L'AFDL a même fragilisé l'armée. Parce que tous les militaires qui avaient même porté soutien à l'AFDL ont été relégués au bas Congo et ils ont souffert comme s'ils avaient insulté le Fils de l'Éternel. Alors, avec tout cela, même si l'AFDL n'a pas bouffé avec les Blancs, comme on a toujours dit, mais l'AFDL a bouffé avec nos frères africains, les Zimbabwéens, les Rwandais, les Ougandais, les Angolais. Alors, vous comprenez que dans tout cela, l'AFDL nous a aidé à échouer l'avancement. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train de mener la même lutte. C'est pourquoi moi j'ai dit que c'est un régime qui n'aurait pas existé.
Merci beaucoup. Merci Valérie. Pour vous, donc, on est revenu à la case de départ. Daniel, partage-t-il cet avis? Vous êtes à Kikwit, Daniel. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Gilles, bonjour aussi à l'invité.
Alors si je reprends, je paraphrase quand même à Léa Tundou, un des cadres de la majorité, qui un jour, lorsqu'on lui posa la question de savoir si le régime Mobutu avait réellement échoué, il a dit ceci, je cite, « Le Mobutisme en tant que vision du monde n'est pas mort, disons, parce que les gens n'ont pas compris. Le Mobutisme a survécu à travers les idées d'intégrité du territoire national, de cohésion nationale, de dignité face à l'adversité. Bref, c'est l'esprit de la nation qu'on retrouve dans tous les partis politiques aujourd'hui. Est-ce que vous partagez cet avis, Daniel?
Bon, M. Jo, merci beaucoup d'abord pour la parole que vous m'accordez. Je peux dire que 20 ans après, sur les 20 ans, le nom de notre pays, quelques jours après la FDL, Joseph Kabila s'est tapé par million en totalisant ses jours, plus ou moins 16 ans au pouvoir, M. J.R. Mais si nous regardons, tandis que son géniteur n'a rien de lâche, piton, à peu près, on peut dire, de 4 ans, il a fait au pouvoir. Mais si la FDL a eu le mérite d'avoir réussi, de pouvoir le régime du dictatorial formellement décrié, de feu Marshall Mobutu Sese Seko, le regroupement politique, monsieur Gilles, qui a accompagné l'étiquette Libération du Congo, a complètement failli de sa mission de Libération du Congo. Car, si nous regardons aujourd'hui, 20 ans plus tard, les Congos sombrent à nouveau dans la dictature. En tant encore, comme le dieu Mesandré Lukoumé qui dit, nous devons chercher quelqu'un autre qui doit encore libérer les Congos. C'est-à-dire les Congos sont toujours en otage. Parce que le Congo attend toujours un nouveau qui doit libérer les Congos.
Merci beaucoup.
Les 20 ans après,
oui.
Monsieur, s'il vous plaît.
Oui, allez-y.
Les 20 ans après, l'ex-Zaïre, laissé par Mobutu, et qui est devenu les Congos démocratiques, souffre encore dans des offres d'occupation étrangères, si son sol propre, dans le sud de Nord Kivu, comme aussi le Kivu et d'autres provinces, il y a des regroupements des armées étrangères qui sont élus domicile, ne cessent de quinter les populations locales, jusqu'à installer des administrations pareilles.
Merci beaucoup, Daniel. On a retenu que, pour vous, en tout cas comme Jean-Claude, que le bilan est très mitigé sur le plan politique. Voilà, nous revenons à vous, docteur Sonji Jean-Baptiste, un des compagnons de Musée. Est-ce qu'on peut dire, comme Valérie, que la victoire de l'AFDL, c'était plutôt la victoire de l'opposition intérieure? Je l'ai dit d'ailleurs en début de cette émission, c'est la question que je vous avais posée.
C'est du peuple congolais, bien sûr, puisqu'il n'y a pas eu de bataille. Vous souvenez-vous de Goma, jusqu'ici, il n'y a eu aucune bataille.
Le peuple avait besoin d'un changement.
Absolument. On a accompagné Mzé parce que le peuple en avait marre de M. Kabila, plutôt de M. Mobutu. Et d'ailleurs, quand l'ingénieur qui a parlé de Kindoula, lorsqu'il dit qu'il n'aurait pas dû exister, mais vous savez, dans l'histoire, si Mobutu avait suivi le processus de la conférence nationale, Mzé ne serait pas là. L'AFDL ne serait pas là. Comme aujourd'hui, on est en train de résister à un processus de démocratisation qui était prévu par la Constitution. C'est-à-dire qu'on prépare quelque chose de nocé. On est à la même situation qu'à l'époque de
Mobutu. Mobutu parle de troisième larron.
Oui, donc
il
aujourd'hui,
parle de troisième larron, l'histoire commence un peu à lui donner raison.
Absolument, face à des blocages qu'on a connus à Mobutu, c'est le blocage de Mobutu qui a amené l'AFDL, comme le blocage d'aujourd'hui peut nous amener dans une autre aventure. Donc c'est pour cela que, quand on est responsable... Donc, moi je peux dire que Mzé d'abord n'a pas eu beaucoup de temps de travail. Mzé n'a travaillé qu'un an. Vous savez qu'il a pris le pouvoir le 17 mai 97. Le 2 août.
Est-ce que c'était pas une erreur, j'y reviens encore sur cette question, de n'avoir pas accepté de travailler avec l'opposition à l'interne?
Mais
comme
il
n'avait pas confiance, c'est ce qu'il y a.
Mais le problème n'est pas d'accepter. Lorsque votre garde du corps est rwandais, tout ce que vous avez sont des Rwandais, qui eux sont venus avec des missions spéciales. Ils ne sont pas venus.
Donc l'AFDL n'avait pas un projet de société.
Mais
c'était un mouvement.
L'AFDL, d'abord, l'AFDL, c'est une couverture. J'aimerais rappeler quand même que cette guerre est venue à un moment où les conservateurs américains parlaient...
La rencontre de l'Émirat, l'accord de l'Émirat...
Oui, mais moi je parle d'abord sur le contexte international. Le conservateur américain, après la chute du mur de Berlin, en était à vouloir redessiner la carte du monde. Et la première des cartes à dessiner, c'était le Moyen-Orient. C'est ce qui explique la guerre de l'Irak, dans l'espoir en fait de changer les cartes. Le Congo était voué à être micro-États qui devaient devenir des comptoirs des multinationales. Donc, quand cette guerre est menée, ce n'est pas Kabila qui la met en place. C'est tous les Américains qui le pensent. Et les Américains ne pouvant pas envoyer eux-mêmes des militaires, ils utilisent les pays limitrophes comme les sous-traitants. Donc l'objectif principal, c'était celui-là. Donc l'objectif n'était pas de permettre à la démocratisation du Congo. Alors, on a pris, d'abord parce qu'il fallait donner une guerre qui, d'essence, n'était pas congolaise, mais il fallait lui donner une couverture congolaise pour que les Congolais l'acceptent. Et c'est ce qui avait été. On a créé donc Vaïk l'AFDEL, qui n'avait aucune ligne idéologique, tout ça. Mais Mouzé, lui, avait une ligne idéologique. Mais ils vont... Le Mouzé va jouer des tours au Rwanda, parce que rappelez-vous que le 16 mai, c'est probablement Bouguera ou quelqu'un d'autre, en tout cas d'obédience plus rwandaise, qui devait prendre le pouvoir. C'est pour déjouer cela que Mouzé, avant même qu'il n'arrive à Kinshasa, il se proclame président de la République à Lubumbashi pour déjouer le jeu que les Rwandais préparaient. Donc Mouzé est venu pratiquement presque seul face à toute une organisation dont les objectifs étaient différents, et lui prenant conscience de la conspiration dont notre pays était victime, c'est ça qui va faire qu'il va se défaire des Rwandais, et effectivement va se déclarer une seconde guerre parce que les Rwandais estimaient que Kabila les avait trahis. Or Kabila estimait que lui, il était congolais, il devait défendre les intérêts du Congo. On nous a mené la guerre.
C'est ce qui justifie la guerre de 98.
Et ceci complète autant la première guerre. Le peuple congolais a compris que du fait que Mouzé venait ici, c'est pour chasser Monsieur Mobutu. La deuxième, c'était une autre guerre. Il fallait y résister, et c'est pour cela que les Congolais, beaucoup de Congolais, ont préféré perdre leur vie que leur pays.
Mais une guerre qui s'est soldée avec un accord global et inclusif entre les belligérants.
Oui, mais cet accord
en 2002.
Mais l'accord là, c'était, vous savez, cet accord. Vous allez voir la différence que Mouzé n'en a jamais voulu, l'accord de Lusaka, tandis que dès que il disparaît, mais cet accord était un accord régicide, c'était un accord qui tuait l'État congolais. Pourquoi? Parce que cet accord mettait sur le même pied le gouvernement central légitime et toute la panoplie des mouvements de rébellion. Ça veut dire que quand vous regardez cet accord-là, l'État congolais, donc l'armée congolaise, n'avait que moins de 25% des prérogatives qui lui revenaient. Les 75% étaient pris aux mains de tous les aventuriers qui sont venus. Et comme lors de la conférence, l'accord de Sun City a conduit à créer un parlement qui avait la même configuration. Donc 24% pour les représentants du gouvernement et tout le reste des autres. Et eux se sont mués en constituante qui ont mis en application cet accord le concept légal. Et aujourd'hui notre armée, il y a plusieurs armées dans l'armée, c'est ce qui fait la faiblesse. C'est dit que les militaires bien formés se trouvent quelque part, et vous voyez aujourd'hui beaucoup de généraux, vous leur posez la question où est-ce qu'ils ont fait les études. Donc rien d'étonnant que le pays se trouve dans une fragilité et fragilisé.
Merci beaucoup docteur Songhi. On va rejoindre donc les autres qui sont en ligne. Félicien à Kinshasa, Maître Sonville à Lubumbashi, Franck à Vienne. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Gérard, bonjour au docteur Songhi, notre invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Cap.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Moi je dis que c'était un malheur, une catastrophe pour la République démocratique du Congo, l'arrivée de l'AFDEL, bien que le peuple, par ignorance, avait accepté et avait bien accueilli l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila et l'AFDEL. Mais la suite s'est avérée que c'était une affaire qui était venue vraiment détruire ce pays que de les sauver. Parce que Mouzé, ça reconnaissait bien que il n'avait pas l'initiative de cette situation. Il connaissait les tenants des aboutissants. Il savait que c'était même pas le Rwanda et l'Ouganda qui voulaient agresser le Congo, mais c'était l'étranger, les multinationales, les pays occidentaux qui voulaient à tout prix émietter le Congo pour à cause de ses richesses. Il a conduit cette guerre, on l'a mis là-bas pour des raisons psychologiques, il est arrivé ici. À partir d'ici, il devait renforcer les fronts intérieurs et pour que les Congolais puissent maintenant se prendre en charge et s'opposer à tous ces pays frontaliers que les Américains avaient utilisés. Mais il a laissé le temps couler, et il était là à tâtonner seul au lieu de s'associer avec ceux qui se sont battus à l'intérieur afin de créer un front et sauver la République. Et voilà, c'est ça qui
Félicien, est-ce que après la FDEL, et si nous devons comparer également la vie socio-économique aujourd'hui, on peut dire que quelque part, ces Congolais qui, en fait, se montrent nostalgiques à passer un peu à l'époque du Zaïre, est-ce que ces Congolais ont raison de penser, disons, qu'à ce temps-là, ou qui affirment que nous vivions en paix à cette époque et personne ne venait nous humilier chez nous, la Gécamine était florissante et le Zaïre était le premier pays d'Afrique subsaharienne à participer à la Coupe du Monde de football, et ils pouvaient organiser les combats de boxe et tant d'autres que vous avez connus. Est-ce que vous donnez raison à ces Congolais?
Mais nous étions un peuple respecté. Ça, Gérard, vous n'êtes pas étranger. Nous étions respectés. Tout ce qu'on réclamait, c'est la démocratie. La démocratie. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que cette même démocratie qu'on réclamait, il y a des pays comme la Libye qui ont vécu sans démocratie, la Chine et tout ça. Ils vivent mieux que des pays où il y a la démocratie. Donc nous avons commis des erreurs aussi de ce côté-là de vouloir la démocratie. Même au bout, nous avons conduit quand même quelque part. Nous étions un peuple respecté en Afrique et comme partout ailleurs. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est Mobutu. Ils sont là au palais du peuple aujourd'hui, c'est Mobutu. L'état des martyrs, c'est Mobutu. C'est tout. L'unité nationale et la paix retrouvée. Ce sont des acquis voilà. Que nous avons perdus aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le tribalisme, c'est le clientélisme. Les entreprises ne fonctionnent plus parce que il faut parler une certaine langue pour être placé quelque part. La compétence ne compte plus et tout ça. Et c'est là où on veut vraiment que nous restions toujours là et qu'on puisse garder le pouvoir pour le pouvoir alors que le pays est tombé très bas.
Merci beaucoup Félicien. Maître Sonville, merci d'être avec nous. Vous êtes à Lubumbashi, bonjour et bienvenue. Maître Sonville, vous êtes avec nous? Voilà, on prend Franck de Vienne. Bonjour Franck.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, à notre frère Félicien et les autres.
Voilà, quelle est votre contribution?
Oui, merci beaucoup, je vous suivais déjà depuis la 20e minute. Il y a un élément très important qu'il faut d'abord insérer jusqu'ici. Si nous devons bien voir l'histoire des révolutions citoyennes à travers tous les coins du monde, je dirais ceci, aucune révolution citoyenne n'est vraiment effective et avec des retombées positives pour le peuple si cette révolution n'a pas été conçue, mise en place et exécutée par les concernés eux-mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Nous nous sommes réjouis avec l'entrée de l'AFDEL, nous nous sommes réjouis à travers leur marche, mais ces gens-là qui venaient, ils avaient déjà leurs calculs, ils avaient leurs ambitions, et ils ont fait semblant de nous impliquer par rapport à ces calculs, et nous, comme on voulait bien se débarrasser d'un système qui avait déjà fait voir toutes ses faiblesses, on a pensé à un changement alors que ce n'était même pas un changement. Par rapport aux trois questions que vous êtes en train de débattre jusque-là sur le plan politique, ce n'est même plus un secret. L'AFDEL et son système nous a fait voir de quoi il est capable. C'est un échec total. On peut parler de quelques changements, de quelques tout ça de façade, mais moi je dirais qu'on a seulement déshabillé Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul. Ce sont les mêmes qui ont désorienté le maréchal Mobutu, qui sont allés avec lui en exil, qui l'ont laissé mourir seul, qui sont rentrés aux affaires et qui font payer la lourde facture à la pauvre population. Puis du point de vue économique, nous sommes en train de voir, monsieur le journaliste, on nous a fait croire qu'il y avait des croissances macroéconomiques à deux chiffres. Mais de nos jours, si on peut aller interroger les peuples moyens de Kinshasa, pas seulement de Kinshasa, dans tous les coins de la RDC, les gens sont en train de souffrir, ce n'est même pas un secret, et tout ce que nous sommes en train de vivre chez nous, ce n'est même plus seulement la souffrance, c'est de la misère et même du marasme. Du point de vue social, là vraiment c'est encore regrettable. À l'époque de Mobutu, quoi qu'il y avait un peu de dictature, il y avait quand même de l'intégrité et de l'unité sociale. Il y avait de l'intégration nationale, donc on pouvait sillonner à travers la RDC sans être inquiété. Mais cette intégrité et unité sociale a maintenant cédé la place aux rébellions, aux sécessions, à beaucoup de problèmes. Cette intégration qui avait à l'époque de Mobutu a cédé sa place au tribalisme, au régionalisme,
merci,
au clientélisme.
Merci beaucoup, Franck.
Au niveau de l'armée.
Voilà, merci beaucoup, Franck, d'avoir accepté de participer à cette émission. Maître Sonville nous a rejoint également. On lui accorde également 1 minute 30 ou 2 minutes, comme tous les autres. Maître Sonville, vous êtes avec nous?
Je suis avec vous, monsieur Gilles.
Voilà, je crois que la ligne s'est améliorée. Quelle est votre contribution?
Je suis avec vous. Moi, ma question est celle-ci. La leçon que je peux tirer de cette journée, c'est-à-dire que Mobutu a fait 32 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on est président, on est responsable d'un pays quelque part. Il faut savoir qu'à toute fin, il faut toujours considérer la fin. Mobutu est parti, pas 32 ans, la fin est venue, l'université a commencé très bien. Mais les 27, les 17 ans autres, sous les règnes de président Kabila, nous ont sérieusement appauvris. Puisqu'au moment où je vous parle, M. JR, la SNCC vient de totaliser 187 millions de paiements. Ça veut dire que pendant les règnes de président Kabila, les agents de la SNCC n'ont jamais perçu de salaire. Et nous nous posons mille et une questions. Comment est-ce que nous pouvons continuer avec un régime pareil? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gouvernement actuel, le chef d'État actuel, doit méditer. Il doit être interpellé par rapport au vécu quotidien de la population. La population est en train de couper dans une misère très, 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 très profonde. Le salaire de l'essor de militaires de Kabila était de 100 dollars. Et c'était régulier. Aujourd'hui, les militaires vous touchent 60 000 francs. 60 000 francs. Des impayements partout. Les agents, nous ne parlons même pas.
Voilà, on a vraiment des petits soucis avec votre ligne. Mais on a compris que sur le plan social, vous avez, nous l'avons dit d'ailleurs en début, les 100 dollars que payait d'ailleurs Mouzet aux policiers, ça pouvait tant soit peu, hein, en tout cas, aider ces derniers à pouvoir résoudre quand même tant soit peu quelques difficultés. Alors, on revient à vous, docteur Songy, pour conclure cette émission. 17 mai 1997, 17 mai 2017, jour pour jour, 20 ans. Alors, donc, on peut dire et rejoindre donc les uns et les autres que le bilan est largement négatif.
Absolument, il est tout à fait négatif. On n'a pas fait partir Mobutu pour faire pire que lui. Mobutu, si on l'a chassé, on devrait évoluer. Et aujourd'hui, malheureusement, nous devons constater que nous
reculons. Et sur le plan politique, que faut-il faire?
Sur le plan politique, il faut changer ce régime. Ce régime, il faut le changer. Il faut absolument d'une façon ou d'une autre, il faut le changer. Parce que comme on l'a fait pour le régime de...
Alors, que faut-il faire sur le plan économique?
Sur le plan économique, il faut repenser tout le pays. D'abord, il faut dire que notre économie est une économie extravertie. Nous sommes un État rentier.
Depuis Mobutu, c'était extraverti. Il n'y avait pas des économies alternatives.
Absolument. C'est pour cela que quand les gens font le louange de Mobutu, c'est relativisé par rapport à la misère d'aujourd'hui. Mais à l'époque de Mobutu, la malnutrition existait, le nombre de médecins n'en avait pas. Donc, le système était un système colonial. L'État était un État colonial. Et jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais repenser que faut-il faire à la place de l'État colonial. Et ça, c'est le défi, je pense, auquel nous devons penser. Aujourd'hui, quand le régime ici, il ne comprend même pas ce que l'État. D'autant que, ce qui est plus grave, c'est que ce sont les gens que le peuple avait chassés hier.
Mais l'AFDEL n'a pas défini aussi des bases pour un État.
Mais l'AFDEL, le régime ici n'est pas le régime de l'AFDEL. L'AFDEL a été incarné par le président Laurent Désiré Kabila, qui est mort, et lorsqu'on l'a tué, c'est pour que l'AFDEL ne continue plus. Ici, le régime aujourd'hui, ce n'est pas le régime de l'AFDEL, c'est un régime dont la mission principale est de superviser le pillage des ressources du pays.
Voilà, merci beaucoup docteur Songy Jean-Baptiste, un des compagnons de Mouzet, Laurent Désiré Kabila, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de partager de manière citoyenne avec les uns et les autres ici au pays et à travers à l'étranger, donc ce sujet rapport avec le 17 mai de chaque année où la RDC célèbre, pendant laquelle donc la RDC célèbre l'avènement de la Troisième République avec la chute du régime Mobutu. Donc je les rappelle que c'est le matin du 17 mai 1997 que l'Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération, AFDEL, arrive à Kinshasa, la capitale de la RDC. Et dans leur déclaration, les leaders de l'AFDEL affirment d'être venus libérer le peuple congolais de la longue dictature des années Mobutu. Vous avez suivi ces débats, comment c'était si riche avec les uns et les autres partout à travers le pays. Nous vous en remercions d'avoir participé et d'avoir porté l'intérêt à ces débats. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ce programme héritier. Sitia Kala était à la mise en onde de cette émission réalisée par Pierre Lamegi et Nico Kalambay. Un programme qui vous a été coordonné, présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. À très bientôt.